L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Immo et Radio Territoria en simultané pour ce quatrième et dernier volet de l'émission Plan Bâtiment Durable, où nous allons continuer à échanger avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais j'aimerais avant faire une petite rétrospective. Vous le savez, au lendemain de l'adoption de la loi Grenelle 1 et dans l'optique de participer pleinement aux réflexions sur le futur de la construction neuve en France, le Plan Bâtiment Durable a lancé en 2011 le groupe de travail Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050 et en 2020, le groupe se renouvelle sous une nouvelle coprésidence assurée par Christian Clairet et Jean-Christophe Vizier et prend le nom de RBRT pour Réflexion Bâtiment Responsable et Territoire. Ce nouveau groupe lance une nouvelle réflexion ayant pour thème l'immobilier partie prenante de la mobilité renouvelée. Ce travail en tout cas vise à identifier les nouvelles relations à développer entre bâtiment et mobilité au service du développement des territoires plus responsables et plus désirables. Et ce quatrième et dernier débat donc a pour but de conclure la série l'immobilier partie prenante de la mobilité par une prise de recul. Et nous allons tout de suite évoquer la question et le débat avec nos invités. Philippe Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, Philippe ?
Mais oui.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président du plan Bâtiment Durable. À vos côtés, nous avons Jean-Christophe Vizier, qui est en visio d'ailleurs avec nous, à distance. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour depuis Montpellier.
Vous allez bien ? En fait, vous êtes tellement proche qu'on a l'impression que vous êtes à côté. Vous voyez ?
C'est parfait.
Voilà, vous allez bien ?
Très bien.
Très bien. Merci d'être avec nous. Christian Clairet, co-président du groupe RBRT qui a initié et produit la note de prospective l'immobilier partie prenante de la mobilité. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Colombier, co-fondateur et directeur scientifique de l'IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes également professeur associé à Sciences Po Paris, membre du Haut Conseil pour le climat. Bienvenue.
Bonjour.
C'est votre première radio ou vous en avez fait beaucoup ?
Ah, c'est ma première radio IMO.
Ah bah c'est parfait. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Juste pour commencer, Philippe Pelletier, en tant que président du plan Bâtiment Durable, est-ce que vous pouvez nous retracer les contours et surtout la mission essentielle de ce groupe ?
Oui, je ne vous parle pas du plan Bâtiment Durable qui a 13 ans d'existence et qui accompagne le programme public de transformation des bâtiments vers le caractère durable qu'on veut leur donner, c'est-à-dire basse consommation d'énergie et neutralité carbone à l'horizon de 30 ans en 2050. Non, à l'intérieur de ce groupe important, 12 000 à 15 000 personnes que nous fédérons un peu partout sur le territoire, nous avons pensé assez vite qu'il était nécessaire d'avoir un groupe de voltigeurs. Un groupe très innovant qui, au-delà de la concertation que nous accompagnons sur les projets publics, au-delà des innovations que le plan bâtiment durable a pu susciter, il fallait des gens, comme on dit aujourd'hui, un peu disruptifs, qui allaient dans la diversité de l'assemblage que ce groupe représente, nous proposer des réflexions et des pistes. Et c'est par exemple de ce groupe-là qu'est né quelque chose qui est très structurant de notre situation actuelle. En 2011, alors que la réglementation thermique 2012 était en train de s'installer doucement, c'est ce groupe qui, sur une commande d'ailleurs de l'administration centrale qui nous avait dit « réfléchissez à la suite », a posé sur la table l'idée que le cycle des réglementations thermiques s'achevait avec la réglementation thermique 2012 et qu'il fallait élargir le champ de réflexion, inscrire la réglementation dans des préoccupations environnementales et notamment se saisir à plein de la question du poids carbone du bâtiment au cours de son cycle de vie dans ses phases de construction, d'exploitation et de déconstruction. Donc ce groupe-là a jeté cette idée à la réflexion, elle a suscité du débat et progressivement une appropriation par l'ensemble des décideurs à la fois les décideurs publics et les décideurs professionnels pour que puisse se mettre en chantier la réglementation environnementale qui a démarré au début de l'année. Eh ben, sur le thème immobilier et mobilité, j'espère qu'il va se passer les mêmes choses. C'est-à-dire, j'espère que les idées qui sont mises sur la table, qui ont été soumises au débat au cours des trois premières séances que vous avez rappelées il y a un instant, vont être un ferment de transformation à la fois de notre regard sur le sujet pour qu'on le s'en saisisse de façon plus large, pas seulement le bâtiment situé nulle part, mais bien sûr le bâtiment dans son environnement et plus largement le bâtiment avec la prise en compte de la mobilité de ses occupants, et que de là, nous allons inventer des nouvelles actions de nature à réduire notre empreinte carbone, à économiser l'énergie.
Alors, au-delà du fait que ce groupe a soulevé différentes questions essentielles, quelles ont été finalement les grandes avancées, les choses concrètement qui ont été mises en place depuis ce travail qui est effectué depuis de longues années déjà ?
Alors, si on parle du plan bâtiment durable en général, mais ça déborde notre sujet, je faisais le compte que en 13 ans d'existence, nous avons posé sur la table une quarantaine de rapports ou de notes qui constituent autant de propositions. Donc, trois par an, c'est à la fois beaucoup, parce qu'on mobilise beaucoup de monde pour établir des concertations autour de ces sujets, et c'est raisonnable, parce que on a démarré sur un matériau qui est l'état des bâtiments aujourd'hui, qui était un matériau non exploité dans sa dimension énergétique et environnementale.
Très bien.
Donc il a fallu, en somme, créer une dynamique. Et on l'a fait à la fois sur le terrain de la construction, en inventant des règles, mais aussi sur le terrain essentiel du recyclage de l'existant, de la rénovation, d'abord énergétique, aujourd'hui environnementale, demain peut-être plus ample encore. Et nous avons proposé des solutions, des dispositifs que l'État a généralement repris à son compte.
Très bien.
Voilà, en gros, ce à quoi nous avons servi, et nous avons pendant tout ce chemin profité de la cellule qu'anime aujourd'hui Christian Clairet et Jean-Christophe Vizier pour que des idées un peu innovantes émergent,
et
qu'on les travaille et qu'on en fasse des dispositions qui en somme structure le chemin.
Très bien. Christian Clairet, vous êtes co-président donc, du groupe RBRT. Pourquoi vous vous êtes intéressé à la mobilité de ce groupe de travail ?
Alors, comme l'a rappelé Philippe, ce groupe de travail existe depuis une bonne dizaine d'années. Il a traité de beaucoup de sujets spécifiques au bâtiment et il a considéré il y a 2 ans qu'il n'avait pas épuisé le sujet, bien évidemment, du bâtiment, mais que le moment était venu de placer le bâtiment dans son territoire, dans ses territoires, à toutes les échelles. Son environnement immédiat, le quartier, la ville, le territoire en général. Et tirant ce fil, il a abordé divers sujets que je ne développerai pas aujourd'hui. Le thème de la mobilité nous est apparu un sujet essentiel. Je voudrais rappeler quelques chiffres très macroscopiques,
s'il vous plaît,
pour en placer les enjeux. Les chiffres que je vais donner sont faux, mais les ordres de grandeur sont les bons. Immobilier et mobilité, c'est 3/4 des consommations d'énergie, 3/4 des émissions de carbone, 50% des émissions de gaz à effet de serre. C'est dire si le couple immobilier-mobilité est un sujet absolument fondamental dans la trajectoire à l'horizon 2050. Or, le constat que nous avons tous fait, l'ensemble des voltigeurs qu'évoquait Philippe Pelletier à l'instant, je précise à cet instant, si vous le voulez bien, petit retour en arrière, que notre groupe est constitué de personnalités que nous avons choisies pour leur hauteur de vue, leur indépendance. Nous ne sommes pas un groupe de lobbyistes, nous sommes vraiment un groupe de réflexion.
Leur indépendance d'opinion, vous voulez dire ? Chacun est venu avec son... D'accord.
Indépendance d'opinion. D'accord. Ils ne représentent pas leur entreprise, ils se représentent eux-mêmes. problème.
Très bien.
Ils viennent avec leur savoir-faire. Et nous ne prétendons pas avoir la compétence en notre sein. Nous auditionnons beaucoup. Mmh. Nous auditionnons beaucoup. On va chercher les compétences à l'extérieur. Et on n'impose rien. Les notes que nous produisons, on a produit une dizaine de rapports depuis l'origine, nous les mettons en ligne, nous les soumettons au débat et les industries s'en saisissent. Alors je reviens à notre sujet, immobilier et mobilité. Donc, nous avons sur ce sujet produit un rapport qui a été soumis à la concertation, donc, et qui n'a pas donné lieu à de très fortes contestations à ce stade, et qui met en lumière l'ensemble des défis à relever, qui sont très très nombreux, et d'autant plus difficiles à relever que nous faisons le constat que l'on a affaire entre l'industrie immobilière et l'industrie de la mobilité à deux mondes qui dialoguent assez peu entre eux. Chacun s'est intensément saisi du sujet. On ne peut pas dire que l'industrie immobilière ne se préoccupe pas de la ville durable ou que l'industrie de la mobilité ne s'en préoccupe pas. Mais force est de constater que le dialogue entre les deux n'est pas optimal à ce stade. Il peut être...
Malgré les prises de conscience importantes qui ont...
Malgré les prises de conscience, et nous soulevons, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, des problèmes de gouvernance et de vision globale. Les défis à relever sont immenses. La ville, enfin, les territoires sont soumis à des transitions à un rythme peu connu dans le passé, que ce soit la transition environnementale, numérique, sociale, sociétale. Enfin, tous les sujets sont d'une très très grande intensité. Et donc, il faut que ce dialogue pouvoir politique, collectivité, société civile et industrie élargisse le point de vue. Et adopte une vision très très globale, tant les décisions prises dans un secteur peuvent avoir des effets négatifs dans d'autres secteurs.
Si vous le voulez bien, avant de donner la parole à Jean-Christophe Vizier qui est avec nous en visio, Michel Colombier, vous avez eu connaissance de tout ce travail effectué autour de ces questions essentielles ?
Oui.
J'imagine que oui.
oui, bien sûr. Donc, peut-être un mot sur ce travail et son importance, enfin, de mon point de vue, en tout cas. C'est un sujet qu'on a rapidement abordé, pour l'instant, au niveau du Haut Conseil pour le Climat, avec, je pense, des analyses qui rejoignent beaucoup les analyses qui sont dans ce rapport. Moi, je voudrais souligner surtout deux choses, peut-être, avant qu'on rentre dans le détail. La première, c'est que la question qu'on a devant nous, c'est une question de deux mondes dans lesquels les temps sont des temps très très longs. Le temps des infrastructures de transport, le temps de la ville, etc. Et comme l'a dit Philippe, on s'est longtemps préoccupé sur la question du neuf. Or, on vit dans des pays anciens, on vit dans des pays où beaucoup de choses sont là. Et en même temps, il y a des dynamiques de transformation très fortes. L'environnement n'en est qu'une. Elle est intentionnelle. Il y en a d'autres, évidemment. Et donc, faire un travail de prospective, à mon avis, est vraiment quelque chose d'une très grande valeur pour essayer d'éclairer les enjeux et de se dire, bon, ben, non pas comment ça sera dans 50 ans, mais qu'est-ce qu'on souhaite faire et du coup quels sont aujourd'hui les enjeux d'une action publique, d'une action politique et de l'action de l'ensemble des acteurs privés pour que ce secteur se transforme. Donc ça c'est la première dimension prospective que je salue. La deuxième c'est de dire, bon, en effet on comprend bien qu'il y a un lien entre la question immobilière, la question transport. Ce lien, il est important pour plusieurs raisons. Il y a notamment une dimension, évidemment, quelles sont les solutions qu'on peut apporter à la question de la décarbonation des transports, etc., dont on se rend compte très vite qu'elle renvoie à « mais qu'est-ce que c'est la mobilité ? Pourquoi la mobilité ? Une fragmentation, etc. » Et donc, finalement, l'inscription sur un territoire de l'endroit où on habite, l'endroit où on travaille, etc. Bon. Mais du coup, ça renvoie à deux autres dimensions qui sont importantes. Il y en a une qui n'a pas été mentionnée, mais qui est mentionnée dans le rapport, bien sûr, qui est la question de l'artificialisation des sols, qui est un sujet très important du point de vue de l'environnement, de la biodiversité et de notre capacité à répondre à l'enjeu climatique. Donc on a cet enjeu-là en France, évidemment. Le deuxième enjeu qui est extrêmement important, c'est la dimension sociale de cette transition. Et c'est bien dans cette articulation entre l'inscription du bâtiment, du territoire, sa construction, son organisation et les solutions de mobilité que l'on peut trouver des voies de transformation, de transition vers une société bas carbone, qui soient des voies non seulement acceptables, mais qui soient des voies désirables du point de vue de quelque chose qui est le cadre de vie des gens, c'est-à-dire à la fois leur qualité de vie et leur capacité aussi, d'un point de vue strictement budgétaire et financier, à faire face à ces enjeux.
Comment ce travail est en tout cas pris en considération par l'IDRI ? De quelle façon est-ce que vous souhaitez en tout cas intégrer le débat ?
Alors, à l'IDRI, on a pas retravaillé récemment sur ces questions-là. On a travaillé plus, enfin, sur des questions qui sont liées, puisqu'on a travaillé sur des questions notamment de fret. Alors là, on est aussi dans un sujet en ce moment qui est en train de bouger énormément. Bouger lui aussi pour des raisons environnementales et bouger parce que globalement la question du commerce, de la logistique,
des distributions,
etc. est en train de se transformer complètement et que c'est une opportunité d'ailleurs pour réorganiser ce sujet. Mais de toute façon, nous à l'IDRI et de la même façon d'ailleurs au Conseil pour le climat, on travaille énormément sur la base de ce qui est produit par des gens, des groupes, etc. à droite à gauche. Donc c'est notre façon de travailler à la base et évidemment qu'un travail comme ça c'est quelque chose qui inspirera nos prochaines réflexions sur le sujet.
Très bien. On a encore plein de questions à vous poser, vous restez avec nous. Jean-Christophe Vizier, merci d'être avec nous pour cette émission, co-président du groupe donc RBRT. Vous avez dirigé les réflexions, quel enseignement tirez-vous de ces échanges, justement?
Alors, ces réflexions ont été collectives et il faut rendre hommage à Julien Emery de Quartier Libre qui a pris une place considérable dans les travaux et qui a été l'auteur de la note. Alors, on a en fait fait émerger 8 pistes d'avenir, 8 pistes de réflexion sur lesquelles les gens du bâtiment et les acteurs de la mobilité pourraient agir ensemble. La première des pistes, c'était de se dire que, historiquement, on a été dans quelque chose où on cherchait à avoir plus, notamment en mobilité, on cherchait à aller plus vite pour aller plus loin. Et ça a été la fureur de vivre, un plaisir de l'automobile qui a été très, très illustré. Et on voit bien qu'on change de période avec les problèmes de congestion dans les villes, les problèmes de coût du carburant, les problèmes de santé liés à la sédentarité. Vous êtes tout le temps dans une voiture ou dans un bâtiment.
C'est vrai.
Et qu'il faut qu'on change un peu les choses. Et premier pari, c'est que certes, il faut travailler sur faire moins, décarboner les voitures, décarboner les bâtiments, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer à réfléchir assez fortement sur comment faire avec moins? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus agréable, plus qualitatif, avec moins? Typiquement, quand on parle d'artificialisation, si on veut moins artificialiser, il va falloir trouver des moyens de faire autrement. Alors, ça peut jouer sur la construction, mais aussi sur les déplacements. Et est-ce qu'en trouvant des liens entre la qualité des lieux dans lesquels on est, peut-on pas trouver des solutions pour moins se déplacer? Le télétravail étant une de ces options, mais il y en a bien d'autres, sur cette idée qu'il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est du moins cher aussi, moins impactant, mais aussi plus agréable, parce que moins, ça veut dire aussi moins de temps dans les embouteillages.
Alors, par exemple, vous dites que faire de la marche, c'est le moyen de locomotion qu'il faudrait privilégier.
Alors, très clairement, on voit que la marche, qui est, si vous prenez Paris, c'est le moyen de déplacement principal.
Vous avez raison, et c'est très sympa en plus.
Si vous voyez un tel endroit, c'est des choses qu'il faut privilégier. Pour privilégier la marche, il faut qu'on ait le plaisir de la marche. Le plaisir de la marche, ça commence dans votre immeuble. Est-ce que l'escalier tel qu'il est fait vous donne envie de prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur? Est-ce que quand vous sortez de chez vous, vous avez un accueil qui est facile, qui est agréable? Est-ce que quand vous voulez aller à 200 mètres de chez vous, vous êtes obligé de faire le tour du bâtiment d'en face, tout simplement parce qu'il est plein de barrières et que vous ne pouvez pas traverser l'espace, qu'il n'a pas ses porosités. Et puis, dernier point, et ça c'est Sonia Lavadigno qui nous expliquait ça, la qualité de la marche, elle est très fortement liée à la qualité des bâtiments que vous avez autour, de ce que vous voyez, des bâtiments, des espaces que vous voyez, et au fait que ces bâtiments vous surprennent, vous donnent une animation qui vous surprend et qui fait que cette marche devient agréable. Donc vous voyez, sur ce sujet de la marche, on a beaucoup de choses à faire au niveau de l'immobilier, que ce soit sur les escaliers, que ce soit sur les entrées d'immeubles, que ce soit sur la manière dont on entoure les immeubles pour les rendre poreux. On est quand même dans une période un peu compliquée. On se dit que pour des raisons de sécurité, on va entourer le jardin de son immeuble, mais si chacun fait ça, a-t-on vraiment gagné en sécurité ? En revanche, on sait que si chacun fait ça, on a perdu en facilité, en porosité des espaces, en capacité à rendre la ville marchable. Donc vous voyez, sur la marche, les acteurs de l'immobilier ont des moyens directs de faire que la ville soit plus agréable à marcher. Et notre conviction, c'est qu'il faut identifier ces sujets et les partager. Autre exemple sur ce qu'on peut faire.
Oui.
On a travaillé, depuis la charte d'Athènes, des espaces très séparés. Il y a des espaces où on vit, il y a des espaces où on travaille, il y a des espaces où on fait des commerces. Très bien. Mais ça veut dire qu'on se déplace en permanence entre ces espaces. Une idée qu'on pousse, qu'on promeut, c'est qu'il faut augmenter l'immeuble et en faire une plateforme de service.
Ah oui. Pour que tout soit au même point, en fait, hein, tout soit au même endroit.
Qu'on ait plus de variété. Tout ne va pas pouvoir être là au même endroit,
évidemment.
Mais en tout cas, sortons de l'idée que chaque chose est dans une zone séparée. Essayons de faciliter cette proximité pour un certain nombre de choses, avec une plus grande porosité des usages. À ce moment-là, la possibilité de la marche, pour les choses qui sont dans les 5 minutes autour du vélo, deviennent beaucoup plus possibles que si vous devez, pour vous rendre à tel ou tel endroit, faire 20 km.
Alors, pardon, une question, mais est-ce que ces réflexions sont à la fois peuvent être mises en place, en tout cas, à la fois sur des grandes villes que dans des métropoles, en tout cas, moins importantes ?
Je pense que c'est vraiment clé de penser ça dans les trois grandes densités. Vous avez la ville très dense,
oui.
Vous avez le périurbain et vous avez le rural. Il faut bien évidemment penser les choses un peu différemment.
Bien sûr, évidemment.
La congestion, elle est cruciale dans la grande ville, mais on sait y faire des transports en commun. On a des sujets sur le périurbain. Quand vous regardez le périurbain, beaucoup de maires dans le périurbain essaient justement de refaire des cœurs de village, de refaire des lieux qui soient attirants et où on trouve un certain nombre de services et qui se retrouvent à ce moment-là, à une distance soit marchable, soit cyclable, des lieux où on vit. Il faut éviter que ce soit à 20 km. Mais finalement, si vous êtes à 2 km, est-ce que c'est impossible de faire ça à la marche ?
Il faut avoir une bonne santé quand même. Hein
Je le dirais plutôt dans votre sens.
C'est le contraire. Si vous marchez, vous êtes en bonne santé.
Oui.
Et c'est important, on voit les salles de gym qui se développent, mais en même temps, on aurait tendance à aller faire de la gym dedans, alors qu'on a quelque chose d'absolument fantastique, qui est de la possibilité, si l'espace urbain est bien prévu, si le trottoir est adapté, si on a du plaisir à se promener, le fait de retrouver le plaisir de la marche est quelque chose de tout à fait possible. Et je pense que c'est un élément important. Quand vous marchez, vous faites ce que dit Sonia Lavadino, dit vous faites du cabotage. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité à la fois d'aller chercher votre pain, mais aussi peut-être d'aller chercher des enfants à l'école ou d'aller chez le médecin en même temps et de croiser vos voisins. Alors que quand vous prenez votre voiture, vous vous apercevez que ce cabotage vous demande à chaque arrêt un effort important.
Oui, effectivement.
Pour trouver pour se garer.
Philippe, oui, pardon. Allez-y, finissez, pardonnez-moi. Jean-Christophe.
On va évoquer, je pense, dans les autres idées qui ont été poussées dans la note, il y a l'idée que la voiture a structuré notre immobilier, en particulier via un objet qui n'existait pas il y a un siècle, qui est le parking. Ce parking est très structurant dans la forme des immeubles. Or, on voit aujourd'hui que ces parkings, il y en a beaucoup qui sont très peu utilisés et qu'il faut les réinventer. Et qu'on a là une possibilité, si on est imaginatif, de faire mieux avec moins. On a des parkings là, comment peut-on les réinventer ? et Jonathan Seban de la Sogaris expliquait dans une des émissions qu'on a fait avec vous comment ça pouvait être des nouveaux lieux pour la logistique urbaine.
Alors,
avec le numérique.
Allez-y, je sais que vous avez plein de choses à nous dire. Jean-Christophe.
Avec le numérique, on a de plus en plus de livraisons à domicile. Ça nous évite de nous déplacer, mais ces objets, il faut les gérer. Et peut-être qu'on a là, avec ce gisement des parkings, quelque chose de considérable pour le faire. Simplement, pour y arriver, il faut être imaginatif. Parce que les parkings n'ont pas été prévus pour ça. Et donc, il y a des trésors d'inventivité à trouver pour réinventer ces parkings,
très bien.
Réinventer ces sous-sols.
Philippe Pelletier, je crois que vous voulez intervenir.
Je trouve tout à fait intéressant que, si vous l'acceptez, que Jean-Christophe continue à présenter les 8 pistes d'avenir.
Vous voulez qu'on fasse les 8 en...
C'est sur cette base-là qu'on pourra discuter utilement, parce que tout se tient.
Très bien.
Il en a présenté déjà plus de la moitié.
Vous voulez qu'on continue alors on va continuer avec vous, mais c'était pour vous donner la parole.
C'était
cela
mon observation.
Très bien.
Mais vous m'avez donné la parole, donc c'est
parfait. Non, mais allez-y, alors Jean-Christophe, présentez-nous jusqu'au bout. Allez-y.
L'idée suivante, ce véhicule électrique, ça pourrait devenir un équipement du bâtiment. On parle énormément ces temps-ci de politique énergétique de la France, avec un enjeu énorme qu'on a, c'est qu'avec le développement des renouvelables, on va avoir besoin de stocker de l'énergie. Or, on est en train de développer la voiture électrique. Une voiture électrique, ça va avoir une batterie qui va vous permettre de faire 400-500 km. Quand vous partez en vacances ou en week-end. Mais au quotidien, vous allez faire 20 ou 40 km. Votre batterie, elle est là, elle est pleine. C'est potentiellement un système de stockage fantastique pour permettre d'alimenter en énergie le bâtiment le soir, au moment où on a besoin d'énergie, et puis recharger les véhicules pendant la nuit, au moment où tout le monde dort. Pour ça, il faut que le véhicule électrique, qui devient un transport d'énergie partagée, soit intégré à la maison et que l'électricité passe dans les deux sens. Vous voyez, là, c'est un exemple très technique, mais qui fait qu'entre bâtiment et mobilité, on a un gain considérable qui peut être fait. Alors, le cinquième point qu'on a vu, c'est qu'il faut changer d'échelle. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder le territoire vécu par les gens pour essayer de trouver des solutions intéressantes. Et il nous semble qu'il y a 4 échelles à voir. La première minute, les 100 premiers mètres autour de chez soi. Le quartier, c'est les 5 minutes. La bande urbaine, c'est le quart d'heure. Et puis l'agglomération, à l'échelle du quart d'heure et de la demi-heure. Et c'est à ces différentes échelles qu'il va falloir penser comment on fait interagir le bâtiment et les mobilités. Pour faire ça, il y a un vrai sujet de gouvernance, parce qu'on s'aperçoit que les gouvernances ne sont pas les mêmes pour les aspects immobiliers et de mobilité. Donc il faut trouver des nouveaux espaces de dialogue, et il faut, dans ces espaces de dialogue, intégrer très fortement les citoyens, parce que on est dans l'intime sur cette manière de se déplacer, de se loger, et que la voix des citoyens est extrêmement importante. Donc on a vraiment une gouvernance collective à trouver pour travailler à ces échelles sur ces sujets de bâtiment et de mobilité.
Très bien.
Pour réussir cet aspect gouvernance, on sait qu'on aura besoin de promouvoir un nouveau pacte entre le public et le privé. Il faut trouver des modes de financement qui peuvent être importants sur ces sujets. Et il faut sortir d'une vision où les uns sauraient, les autres ne sauraient pas. Les appels à manifestation d'intérêt, les appels à projets urbains innovants, ont montré que ces croisements de solutions sur le bâtiment et sur la mobilité, on pouvait les trouver si on se mettait ensemble à réfléchir sur comment faire. Ça veut dire aussi que la réglementation devra faciliter l'hybridation des usages. Oui, quand on dit que on a des bâtiments qui pourraient devenir des plateformes de services, des bâtiments qui pourraient devenir des plateformes de des hubs de mobilité, il va falloir sur les aspects de réglementaires se trouver de la souplesse pour pouvoir permettre ces nouvelles manières de penser, d'agir ensemble. Exemple de réglementation, peut-être que après la RE 2020 sur les bâtiments, l'étape suivante sur laquelle le plan bâtiment a commencé à travailler pourrait intégrer dans l'évaluation des impacts des bâtiments les aspects mobilité. Et puis le dernier point qui nous paraît important, c'est de trouver un nouvel équilibre entre les métropoles et les villes moyennes. On a parfois tendance à opposer l'un et l'autre, ce qui n'a pas de sens. L'enjeu, c'est de se dire qu'on a bien trois densités, hein. Des villes qui sont denses, des endroits dans le périurbain, dans les villes moyennes qui sont moins denses, et puis des endroits ruraux. Chacun a des richesses et que les manières d'interagir entre ces trois niveaux seront très importants et que les solutions qui seront adaptées pour les différents lieux ne seront pas les mêmes. La place du véhicule électrique, la place du parking ne sera pas la même dans ces différentes zones. En revanche, il faut penser aux manières dont elles pourront s'enrichir les unes et les autres. C'est plutôt dans les zones rurales qu'on pourra faire de la production d'énergie renouvelable en grande quantité. Et en même temps, il y a des usages qu'on fera principalement dans les villes denses. C'est la complémentarité entre ces trois échelles qui sera probablement une manière de trouver des solutions.
Très bien, donc 8 pistes
voilà,
d'avenir.
J'en ai fini sur les 8 points.
Très bien. Christian Clairet, vous voulez réagir?
Très rapidement, parce que je voudrais surtout que notre invité puisse, puisse réagir. On a toujours tendance à chercher ses clés sous le lampadaire. On connaît bien cette formule. Et c'est vrai que sur ces sujets, on entend beaucoup les maires des grandes villes. Les maires des grandes villes. Alors, je voudrais simplement souligner un point qui revêt un aspect à la fois technique, mais comme le disait Michel Colombier, un aspect social et politique. C'est que, certes, il y a un problème à traiter au sein de toutes les grandes villes, mais sur ce couple immobilier-mobilité, il faut être conscient que, par exemple, pour prendre l'exemple de Paris, les déplacements Paris-Paris, c'est 2% des mobilités de l'Île-de-France. Tout le reste, c'est des déplacements intra-banlieue ou entre banlieue et Paris. Et donc, le sujet à traiter, le sujet à traiter ne doit pas se concentrer sur les cœurs de ville, mais traiter l'ensemble de la première, deuxième couronne de toutes les agglomérations et s'intéresser aux zones rurales également. On a vraiment un problème de territoire et c'est d'autant plus important que sur le plan social et politique, on sait bien que les familles ont été exclues des centres-villes pour des raisons financières et de hausse de prix. Donc ce sujet, il faut bien le replacer dans son contexte et ne pas croire que c'est seulement l'hyperdensité du centre-ville qui va nous aider à régler le problème. On a vraiment un problème territorial national.
Très bien. Michel Colomb, je vous ai senti très attentif. J'imagine que vous avez des choses à nous dire.
Oui, peut-être une ou deux réactions. Bon, d'abord, les pistes qui ont été évoquées sont extrêmement intéressantes. Je pense qu'elles font bien le tour de la question. Je voulais peut-être mettre l'accent sur deux ou trois choses. Une qui est, je crois que c'est très évident dans ce qui vient d'être dit, que dans ces affaires de transition, on met souvent une injonction sur les citoyens. À la limite, on pourrait entendre la marche, c'est pas ce que vous avez dit, hein, mais on pourrait entendre, et on entend ça des fois, du genre « laissez tomber votre voiture, faites de la marche, etc. Bon. » Ce qu'on comprend bien là, c'est que il s'agit pas du tout de restreindre les libertés des gens, mais c'est exactement le contraire. C'est que les espaces qu'on a construits, c'est eux qui restreignent les libertés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, en fait, on n'a souvent pas le choix de faire autrement que voilà, ce qui est à notre disposition. C'était d'ailleurs une des remarques de certains des Gilets jaunes. Moi, je me rappelle des blogs de Priscilla Ludowski qui disait simplement « Mais moi, je ne vois pas ce que je peux faire en réponse de la hausse de la taxe. Ma question est qu'est-ce que je fais là où je suis ?» Et ça, c'est une question collective, c'est une question d'organisation, d'urbanisme, bâtiment, etc. C'est pas une question individuelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, j'habite en proche banlieue et en effet, quand on regarde les déplacements, les gens qui habitent où j'habite, Malakoff, donc c'est juste à la sortie de Paris, ceux qui vont à Paris, il y a 20% des gens qui prennent une voiture. Ceux qui vont travailler à la Défense ailleurs en banlieue, il y en a 60% qui prennent une voiture. Pourquoi ? Parce que simplement, l'offre de transport, c'est la même distance. Mais ce n'est pas du tout la même offre de transport. On a une offre complètement radiale. Paris est organisé comme la France, tout va vers le centre. Et donc, simplement, on n'a pas d'offre qui correspond aujourd'hui à ce type de déplacement. Donc ça, c'est la première chose. C'est le côté individuel, collectif. Et donc, c'est extrêmement important aussi, la dernière recommandation, évidemment, qui va avec sur la question de la gouvernance, qui est de savoir comment associer les citoyens à cette question-là. La deuxième chose, c'est que on se dit souvent, bon, le télétravail, c'est en partie une solution. Alors, on a vu avec la crise du Covid que le télétravail, c'est aussi finalement un luxe pour un certain nombre de catégories sociales, de types d'emplois, etc. Et on se dit, mais, du coup, c'est très limité, c'est pas vraiment la solution, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au télétravail. Mais il y a autre chose qui est la question de la relocalisation des activités, et en particulier énormément d'activités de services qui aujourd'hui sont concentrées, y compris des services aux citoyens, que ce soit des services de santé, des services administratifs, des services de commerce, etc., qui sont ultra concentrés et que donc on aurait à la fois intérêt à redistribuer sur le territoire, vous l'avez dit, mais qui du coup créerait évidemment de l'emploi déconcentré. Et on a fait exactement le contraire pendant très longtemps sur l'ensemble des services. Et c'est une question, une problématique qu'on voit aujourd'hui typiquement au milieu rural. Mais évidemment, il faut repenser à l'amont, quelle est l'organisation des services et les conditions de cette production de services aux gens. Ça me semble extrêmement important. Et la dernière chose, c'est que, en effet, il y a des territoires qu'il va falloir réinventer. Et il me semble qu'il y en a deux qui sont aussi importants. Il y en a un qui est, faut être clair, si on ne veut pas continuer à artificialiser, il va bien falloir reconstruire là où on construit. Alors souvent, on dit densification, ça fait peur à tout le monde, les gens se disent oulala. En même temps, on voit qu'on a des grandes zones périurbaines dans lesquelles on a fait un habitat avec des espaces de jardins, etc., qui sont absolument immenses et tout. Et c'est des zones aujourd'hui qui, dans beaucoup de villes moyennes, se dévalorisent parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de service. On n'est pas vraiment à la campagne, donc ce n'est pas très attractif. En même temps, il n'y a aucun service, il n'y a aucune qualité, etc. Donc c'est sûrement des espaces sur lesquels il faut travailler. Je sais qu'il y a des urbanistes qui travaillent sur une question de requalification de ces espaces, y compris justement en réimplantant des activités de services, etc., et en travaillant des formes de densification de ces espaces qui répondent en fait aux aspirations des gens. Donc ils le font avec les gens eux-mêmes. Et puis il y a un deuxième espace, à mon avis, qu'il faut aussi réinventer, dans lequel il y a d'ailleurs beaucoup de parking aussi, mais ce n'est pas les mêmes. C'est que on a pris beaucoup d'espace pour faire des zones commerciales immenses, qui sont des espèces de grands supermarchés de tout, où tout est disponible, étalé, etc. Si on réfléchit à l'évolution du commerce, il y a de fortes chances que ces offres-là soient condamnées. C'est des espaces immenses avec, alors en termes d'artificialisation, des parkings. Et on avait fait à l'IDRI une étude sur les questions d'artificialisation très précise en Île-de-France. Et c'est en particulier ces espaces-là, ces espaces commerciaux associés à des espaces de parking immenses, associés à des espaces de circulation immenses. On ne peut pas aller de chez, je ne vais pas donner de nom, mais enfin bref, d'un supermarché à un vendeur de meubles à côté, sans reprendre sa voiture pour aller d'un parking à l'autre, etc. Et ça, c'est des espaces aussi qui vont être, à mon avis, assez rapidement déqualifiés, disponibles, et des formes de friches urbaines sur lesquelles il y a des choses à reconstruire.
Très bien. Donc les 8 pistes, pour vous, sont toutes envisageables ?
Alors pour moi, ces 8 pistes sont toutes envisageables. Je pense qu'il y a deux drivers importants en amont, qui ne sont pas forcément directement entre les mains du monde de l'immobilier ou du transport, mais en même temps, ces mondes-là ont évidemment eux-mêmes une interface avec cet amont-là. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes aussi, notamment quand on regarde d'autres pays européens. Il y en a un qui est la question de la mobilité des personnes elles-mêmes par rapport à leur logement.
Oui.
C'est-à-dire la possibilité finalement de s'adapter, de déménager quand, pour un certain nombre de raisons, circonstances de la vie, d'emploi, etc., on a envie de changer. Et il faut prendre conscience là-dessus qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement compliqué, parce que quand vous avez des contrats courts, quand vous avez, etc., quand vous avez trouvé quelque chose, un bail, c'est difficile de changer.
Bien sûr.
Vous avez la chance d'avoir quelque chose, vous n'êtes pas sûr de retrouver quelque chose. Donc vous restez où vous êtes. Vous restez où vous êtes, quelles que soient les circonstances de l'emploi. Ça, c'est une question. La deuxième question, donc ça c'est une question qui a à voir avec la façon dont on gère évidemment l'accès à l'immobilier, que ce soit pour l'achat d'ailleurs, financière, taxe, etc., que pour la location. Et il y a une deuxième question évidemment qui a trait aux conditions d'emploi, vu la proportion de contrats très courts. Ce qui se passait il y a 30 ans, 40 ans, on se localisait pour longtemps en fonction de l'endroit où on avait trouvé de l'emploi. Aujourd'hui c'est pas vrai, on trouve de l'emploi où on peut et puis on prend les transports, on s'organise pour se déplacer.
Très bien. Philippe Pelletier, il reste à peu près 5 petites minutes avant la fin de l'émission. Je vais vous laisser peut-être nous dire, vous, ce que vous avez pensé justement de ces échanges. Et je donnerai effectivement la parole à Christian Clairet et Jean-Christophe Vizier.
Je vais me contenter d'une observation que je nourris de la fréquentation des pouvoirs publics depuis quelques années qu'ils m'ont demandé de conduire le plan bâtiment durable. Ce qu'on dit à travers cette note, et comme les échanges l'ont montré, c'est principalement cette idée que les sujets, beaucoup de sujets sont liés, et qu'il faut arriver à décloisonner ces sujets et à les traiter globalement. On ne peut pas parler du logement sans parler de la ville, on ne peut pas parler du logement et de la ville sans parler des transports, on ne peut pas parler de cet ensemble sans penser au travail, sans penser à la santé, sans penser à la cohésion des territoires.
Tout à fait.
Et tous ces mots que je viens de prononcer, logement, santé, travail, ville, transport, cohésion des territoires, c'est autant de ministères différents. Mm. Ça veut dire qu'on est dans une organisation publique dans laquelle chacun est dans son couloir, avec la meilleure volonté du monde, mais chacun peine à regarder ce qui se passe dans les couloirs d'à côté et à faire ensemble des choses qui seraient nécessaires. Et on a là un sujet de gouvernance publique, oui. Des sujets pour les faire avancer, qui est un sujet majeur. Vous avez observé dans ce que je viens de dire que la ministre chargée du logement n'est pas la ministre chargée de la ville. Et vous imaginez bien que les deux sujets sont étroitement liés.
Bien sûr.
Vous avez mesuré au cours de la crise sanitaire l'importance que le sujet de la santé occupait dans notre vie confinée dans les logements. Et ce couple santé-logement qui se traduit notamment par cet encouragement à la marche qui est une de nos propositions.
On va tous marcher en sortant du studio.
Ce couple-là, il ne fonctionne pas en France. Il ne fonctionne pas parce que l'administration de la santé a des préoccupations qui ne la conduit pas à s'intéresser au logement et inversement. Et donc je dis, on a un immense sujet qui est celui d'une organisation publique et privée, parce que Christian Clairel a montré les gens du transport et les gens de l'immobilier sont des gens qui se fréquentent peu aujourd'hui, qu'il faut arriver à transformer pour qu'on puisse avoir cette approche générale qui conduit en somme à partir très simplement des personnes, des habitants que nous sommes, des habitants qui habitons la ville, qui habitons le logement, et c'est à partir d'eux, pour eux, que dans une approche écologique, économique et sociale, on doit appréhender l'ensemble de ces sujets. Donc je veux simplement dire qu'on pose sur la table des idées, mais que leur mise en œuvre va supposer un sacré travail de réorganisation de la conduite de l'action.
C'est sûr. Christian Clairet, je vais vous laisser juste conclure, et puis après je donnerai peut-être le mot de la fin à Jean-Christophe Vizier.
Ah, conclure est difficile, d'autant que mon intention était de développer le thème que vient de traiter Philippe.
Ah, alors donc là, ça va être compliqué, parce que sinon il faut une émission de deux heures, mais c'est très compliqué.
Auquel je souscris à 200% pour militer.
On fera une autre émission, promis.
De cette orientation depuis de nombreuses années. Ouais. Je crois que on attend beaucoup du politique et c'est normal, mais on l'a bien vu dans cette émission, le sujet est d'une extraordinaire complexité. Et donc il faut, une fois traitée la question soulevée par Philippe, je crois que on puisse documenter la réflexion, la confrontation de l'industrie, du monde politique, de la société civile, du corps social, du corps social, pour éclairer le politique dans sa décision. Et moi, je plaide vraiment pour que tous les organismes qui peuvent faire un peu de recherche académique sur ces sujets, en adoptant une vision extrêmement globale. On a beaucoup de recherches et de thèmes sur la mobilité, sur l'immobilier, mais assez peu de documentation, d'études sur la transversalité qui incorpore notamment, et on a auditionné beaucoup de sociologues à l'occasion de cette note, qui incorpore également les comportements et le désir. On voit ces attentes évoluer, on voit le problème social monter en puissance, et je crois que le politique qui a la responsabilité de trancher, on doit aussi l'aider en lui donnant les éléments de la décision. Aujourd'hui, on est face à des sujets d'une très grande complexité. Il y a encore beaucoup à faire.
Jean-Christophe Vizier, je vais vous demander de conclure brièvement, s'il vous plaît.
Je vais juste rebondir sur une phrase de Michel Colombier,
oui,
sur cette idée des parcours résidentiels, en ouvrant vers les travaux qu'on est en train de mener maintenant sur un sujet complémentaire, qui est de dire que très probablement, faire évoluer, permettre aux gens de changer de logement au cours de leur vie pour aller dans les logements mieux adaptés à ce dont ils ont besoin dans ce moment de leur vie pourrait être un des éléments de changement assez profond qui permettrait d'associer mieux le désir de chacun d'avoir un logement qui lui va bien et des aspects environnementaux. Je ne sais pas si vous savez, mais la surface par personne dans le logement, c'est 35 mètres carrés à 35 ans, 65 mètres carrés à 65 ans. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des choses à trouver dans de la mobilité qui permettrait aux gens qui vieillissent d'avoir des logements qui leur correspondent mieux et qui ne sont pas forcément des logements plus grands.
Donc
la mobilité peut être une manière de faire mieux peut-être avec moins.
Très bien. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce dernier volet du plan bâtiment durable. Philippe Pelletier, merci. Jean-Christophe Vizier, qui était avec nous en visio. On vous laisse, je pense que vous avez une marche à faire là, non, Jean-Christophe?
Comme toujours.
D'accord. Christian Clairet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Michel Colombier, merci pour vos réflexions et votre participation. À très bientôt. Et merci d'avoir participé à ce quatrième volet et dernier.
L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables, à retrouver sur Radio Immo et Radio Territoria.